VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre le paludisme, maladie qui tue chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes en Afrique, notamment des enfants. Après le Malawi et le Ghana en avril, le Kenya lance ce vendredi une campagne de vaccination anti-paludisme, test grandeur nature du vaccin expérimental le plus avancé contre ce fléau. À aboutissement de plus de 30 ans de travaux, la campagne entreprise dans ces trois pays vise à confirmer l'efficacité du vaccin sur des enfants âgés de moins de 2 ans, les plus vulnérables face au paludisme. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui coordonne ces programmes, espère vacciner 120 000 enfants dans chacun des trois pays concernés d'ici à 2020. Crise anglophone au Cameroun, le Social Democratic Front, SDF, principal parti d'opposition du pays, a exigé dans un communiqué ce vendredi une amnistie générale des détenus liés à la crise séparatiste de l'Ouest anglophone et un cessez-le-feu avant de participer au grand dialogue national proposé par le président Paul Biya. Pour sa part, la France avait exprimé le vœu hier que ce dialogue permette une large concertation des Camerounais respectant les différentes sensibilités politiques. Objectif, mettre fin au conflit meurtrier dans les régions anglophones qui agitent le Cameroun depuis près de 3 ans. Éric Maniakiza.
La porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a salué l'annonce du président Paul Biya, souhaitant que ce dialogue ouvre la voie à une résolution politique de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Tout en réitérant sa condamnation du recours à toute forme de violence, Paris souligne son attachement au dialogue et à la libre expression des différentes sensibilités politiques à travers une large concertation entre Camerounais. La secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, encourage toutes les parties prenantes camerounaises, y compris la diaspora, à s'impliquer de manière constructive dans ce dialogue. L'annonce de Paul Biya est intervenue 3 semaines après la condamnation à la prison à vie d'un des principaux chefs séparatistes, Julius Ayuk Tabe, qui a qualifié hier de non-événement le dialogue voulu par Yaoundé. Il estime que c'est une tentative maladroite d'éviter des sanctions de l'ONU. Pour lui, le président Biya n'a pas défini les modalités juridiques qui permettraient le retour au Cameroun des réfugiés ou demandeurs d'asile qui ont fui le pays en raison des persécutions du régime de Yaoundé.
Afrique centrale toujours, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé à l'unanimité jeudi un premier allègement de l'embargo sur les armes décrété en 2013 pour la Centrafrique. Une demande de longue date du gouvernement de Bangui pour mieux combattre les groupes armés dans le pays. Cette résolution permettra à la République centrafricaine de s'occuper de sa propre sécurité, a déclaré devant les médias l'ambassadeur de France auprès de l'ONU, Nicolas de Rivière. Pour Bangui et la Russie surtout, pays très présent en territoire centrafricain depuis quelques années, il est possible d'aller beaucoup plus loin dans la levée de l'embargo affectant la RCA. Et puis au Mali, nouvelle promesse du gouvernement aujourd'hui pour mettre fin au mouvement de protestation dans plusieurs villes du pays par des habitants exaspérés par leurs conditions de vie et l'état des routes. Bamako s'est engagé ce vendredi matin à commencer dans 6 mois au plus tard les travaux sur la route reliant Gao à Sévaré dans le centre du pays et à la capitale Bamako. Gao, la plus importante ville du nord malien, a été l'un des foyers du mécontentement. La principale raison du mouvement de contestation, selon les experts, le cauchemar que représentent les déplacements sur des routes menacées par le djihadisme, le brigandage, les intempéries ou le délabrement dans un pays en proie depuis 2012 à des violences djihadistes et intercommunautaires. Le gouvernement malien a pris aussi l'engagement d'escorter à partir de lundi les bus empruntant la route Gao-Sévaré, théâtre d'attaques fréquentes de la part d'hommes armés. Bamako avait déjà pris des engagements analogues cette semaine à Tombouctou, autre foyer de contestation. En contrepartie, les protestataires promettent de lever immédiatement toutes les restrictions sur les routes, notamment à Gao.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique australe maintenant. Au Zimbabwe, les proches de l'ex-président Robert Mugabe ont finalement accepté que le père de l'indépendance du pays soit enterré au Champ des Héros, un monument national de la capitale Harare, ainsi que le souhaitait le gouvernement. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un porte-parole de la famille. Oui, je confirme, a déclaré devant la presse Léo Mugabe, un des neveux du leader défunt, après plusieurs jours de tensions entre les autorités et la famille, qui préférait initialement, elle, que Robert Mugabe repose dans son village. Le porte-parole de la famille n'a pas précisé à quelle date l'enterrement aurait lieu. Rappelons que Robert Mugabe s'est éteint le 6 septembre à l'âge de 95 ans dans un hôpital de luxe de Singapour où il venait se faire soigner depuis des années. Afrique du Nord, 26 candidats pour la présidentielle en Tunisie concluent ce vendredi une campagne fiévreuse et mouvementée avant un premier tour de scrutin dimanche à l'issue totalement incertaine. Ce dernier jour de campagne devrait également être marqué par une décision de la Cour de cassation qui doit se prononcer sur un recours contre l'arrestation de Nabil Kaouri, l'un des favoris du scrutin, incarcéré depuis le 23 août pour blanchiment d'argent. L'homme d'affaires qui accuse le pouvoir d'avoir instrumentalisé la justice pour l'écarter de la course à la présidence a assuré jeudi dans un communiqué qu'il ne se retirerait pas de cette course. Nabil Kaouri a également affirmé avoir entamé une grève de la faim. Et toujours concernant la Tunisie, l'ex-président tunisien Zine Ben Ali a été hospitalisé pour de graves problèmes de santé en Arabie Saoudite. C'est ce qu'a déclaré jeudi son avocat Mounir Ben Salah. Âgé de 83 ans, Ben Ali vit en exil en Arabie Saoudite depuis la révolution de 2011 qui a mis fin à son régime autocratique. Ni son avocat, ni sa famille n'ont communiqué publiquement sur son état de santé depuis cette date. Et l'ancien président n'a jamais fait de déclaration publique depuis qu'il vit dans le royaume wahhabite. Ben Ali a été condamné en 2011 par contumace à 35 ans de prison pour de multiples charges, dont corruption et torture, et l'année suivante à 20 ans de prison supplémentaire pour meurtre et pillage. En Algérie, l'opposant Karim Tabou, figure du mouvement de contestation, a été placé jeudi en détention provisoire. Selon ses avocats, l'opposant est inculpé d'atteinte au moral de l'armée. Le point avec Ekia Badou.
Karim Tabou, 46 ans, a été arrêté mercredi à Alger devant son domicile selon son parti l'Union démocratique et sociale. Il a été inculpé d'atteinte au moral de l'armée. Depuis le début du mouvement de contestation, le 22 février, il a été de toutes les manifs depuis 7 mois. D'abord membre de Front des Forces Socialistes, le plus ancien parti d'opposition, il a fondé en novembre 2012 l'Union démocratique et sociale, ou UDS, un parti non autorisé en Algérie. Le Comité national pour la libération des détenus a qualifié cette arrestation de kidnapping, semblable à celui du commandant Lagdar Bourega, un célèbre vétéran de la guerre d'indépendance incarcéré depuis le 30 juin pour atteinte au moral de l'armée. Cet opposant de 86 ans avait lui aussi critiqué le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, devenu de fait l'homme fort du pays depuis la démission de M. Bouteflika. Le général Salah refuse toute autre solution de sortie de crise une élection présidentielle dont la date n'est pas fixée.
Actualité aux États-Unis pour terminer. Course à la présidence, le favori de la primaire démocrate Joe Biden a opté pour l'offensive jeudi lors du troisième débat télévisé des prétendants à la Maison-Blanche, taclant ses principaux rivaux, les sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders, sans se laisser déstabiliser par les plus petits candidat dans la course à la présidence. Le compte-rendu de Jean-Roger Bion.
Joe Biden, 76 ans, s'est montré incisif dans ce débat marathon de 3 heures. Il a défendu ses positions centristes face aux deux candidats plus à gauche, Elizabeth Warren et Bernie Sanders. L'ancien vice-président de Barack Obama a également revendiqué à plusieurs reprises ses liens avec le premier président noir des États-Unis, encore très populaire dans l'électorat démocrate. Les questions liées aux armes à feu étaient au centre des discussions. L'ex-élu du Texas à la Chambre des représentants, Beto O'Rourke, a plaidé pour la confiscation des fusils d'assaut. Pour les petits candidats, ce débat marquait l'une des dernières occasions de grimper dans les sondages et de s'attirer des financements indispensables pour poursuivre la campagne. 5 mois avant les premiers votes dans l'Iowa, Ce troisième débat marque le vrai coup d'envoi de la rentrée politique aux États-Unis et l'accélération de cette longue campagne. 20 candidats sont toujours en lice dans la galaxie des démocrates.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com.